Salut Marc, comment ça va?
Eh bien, toi, mon cher.
Super bien. Beaucoup de questions. Oui. Et continuez de les envoyer parce que Dan va les poser dans quelques secondes. Des questions sur tout. Marc Bouchard is in the house. Et tu veux parler de la Fiat 500 qui démontre que finalement, l'obstacle, c'est le prix. Le problème, c'est le prix. Quand c'est moins cher, ça se vend.
Bien, écoute, une Fiat 500 électrique, là, on va se le dire, c'est 225 km d'autonomie. C'est quand tu mesures plus que 6 pieds, il faut que tu conduises assis sur le siège en arrière. J'exagère, mais c'est à peu près ça. Évidemment, c'est pas fait pour tout le monde. Or, Fiat, il y a quelques semaines, je vous en avais parlé d'ailleurs, a fait un super spécial. C'était, imaginez-vous, là, 25 $ par semaine en location.
C'est encore le cas en passant?
Non, ben, il n'y en a plus. Là. Ça s'est vendu. Ils en ont vendu plus de 350 en une semaine.
Ah, ouais.
As-tu pensé 350 Fiat 500 électriques? Et là, je répète.
Au Québec ou au Canada?
Au Québec. Donc, on parle de véhicules dont l'autonomie est en bas de 250 km. Donc, évidemment, en hiver, c'est encore moins que ça. On parle de véhicules qui n'ont pas de capacité de chargement. On parle de deux roues motrices. On n'est pas dans un VUS pratique pour la famille, là. Alors, quand on arrive avec un prix comme celui-là, donc en gros, ça coûtait à peu près 24 000 $ s'acheter une Fiat électrique avec tous les incitatifs et les prix. Ça coûtait 24 000 $. Ça veut dire que quand les Chinois vont arriver, puisque M. Carney les a forcés à dire que dans 5 ans, il va falloir que 50 % de vos voitures soient en bas de 35 000 $, ils vont en vendre des chars en bas de 35 000 et il va falloir que les manufacturiers nord-américains, entre autres, se bougent un petit peu les fesses. Parce que là, Stellantis, Ford, GM ont tous annoncé des déficits incroyables au cours des derniers jours, même des dernières semaines dans certains cas. C'est la catastrophe. On dit qu'ils ont perdu 60 milliards de dollars avec les voitures électriques. Ben, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. Ce n'est que le début parce que si on est capable de vendre des voitures à ce prix-là, et là, il n'y a pas juste eux autres, il y a les Coréens qui s'en viennent. Tu vois, moi, ce matin, je m'en vais tourner virage. En studio, on a la Kia EV4. 38 000 $ la EV4.
Je vais aller voir ça, Kia EV4.
C'est la nouveauté qui vient d'arriver. Évidemment, elle est deux roues motrices, mais elle a quand même 550 km d'autonomie. Donc, il va falloir que les Américains se sautent les doigts dans le nez puis décident d'embarquer dans le train ou de carrément débarquer, mais ils ne peuvent pas continuer de marcher sur la ligne comme ils le font actuellement. Et honnêtement, moi, l'expérience de la Fiat 500e, c'est vrai que c'était des modèles qu'il y avait en inventaire. C'était difficile à trouver. Tu prenais celle qu'il y avait puis tu n'avais pas ben des choix. Mais à 25$ par semaine, pour quelqu'un qui reste en ville, c'est moins cher qu'une passe d'autobus mensuelle ou à peu près.
C'est quasiment moins cher qu'au communauto.
Oui. C'est moins cher qu'un communauto. Ça te coûte...
Ça n'a pas d'allure.
C'est quoi? C'est 160$ de membership à Montréal, un communauto par année? Tu sais, je veux dire, en partant... Mais comme je te dis, pour moi qui est à Saint-Hyacinthe, là, si je me prends le laisser-passer transport en commun pour me rendre à Montréal, ça me coûte 250$ par mois.
Avant d'aller aux questions...
125, ça, avec une Fiat 500.
Non, c'est une joke. Avant d'aller aux questions, juste une dernière question comme ça pour compléter là-dessus. Le plan de match des Nord-Américains, c'est quoi à ce moment-là? Là, tu as parlé de Stellantis, de Ford, évidemment, qui a fait des gros déficits et qui a perdu énormément d'argent avec le Lightning et le Mach-E. Là. C'est quoi le plan de match? Le plan, c'est quoi?
Écoute, honnêtement, actuellement, je pense qu'ils sont assez déstabilisés parce que, un, ils pensaient pas qu'en abaissant les prix, ça se vendrait tant que ça. Donc, ils étaient bien contents quand ils ont vu que M. Trump abandonnait les normes d'émissions polluantes. Mais là, comment ça se rend compte que ça se vend? Et que ça se vend pas mal. Puis là, les Chinois vont arriver, ils n'auront pas le choix. Les Chinois sont au Mexique. Là, ils vont arriver au Canada. On a commencé à émettre les premiers permis, là. 24 500 permis d'importation qui ont été émis la semaine passée entre maintenant et le mois d'août pour les véhicules.
J'ai pas
chinois.
Vu ça.
Oui. Parce qu'il y en a 49 000 à émettre. Donc, la première moitié vient d'être émise au cours de la fin de semaine. Ça va donc se...
Quelle compagnie?
Ben pour le moment, c'est comme à l'achat, c'est comme un bid. Donc, on ne sait pas encore qui a ramassé. On s'attend pour le moment à ce que ce soit surtout Polestar, Tesla, ces compagnies-là qui fabriquaient déjà en Chine puis qui amenaient chez nous. Le problème de ces nouveaux véhicules-là, c'est qu'il faut qu'ils s'établissent un réseau de distribution. Avec 24 000 véhicules, c'est pas suffisant pour établir un réseau de distribution.
Pour bâtir un garage, exactement, un réseau de garage.
Fait que là, ils vont avoir des ententes, mais BYD, je vous le rappelle, a déjà un bureau au Canada parce qu'il y avait une usine d'autobus en Ontario, eux autres.
C'est vrai.
Fait que c'est pas fini, cette affaire-là. Moi, je pense que d'ici la fin de l'année, on va avoir des grosses surprises du côté des Chinois.
Hey, c'est très intéressant. Voici Dan pour le reste de la chronique. Des questions du monde.
Toyota Sequoia TRD Pro 2026, t'en penses quoi?
Ah ben écoute, le Sequoia, c'est un véhicule qui n'a pas changé beaucoup. C'est un véhicule qui est solide, c'est une grosse patente, évidemment. Moi, le TRD Pro, ça a toujours été ma version préférée, même si souvent on la paye pour rien parce qu'elle a des capacités dont on ne se sert que rarement, voire jamais. Mais c'est le fun. C'est dans la série des
véhicules. C'est pas un véhicule qu'on voit souvent sur les routes.
Bien, le Sequoia, on s'entend pour dire que c'est pas le plus vendu de la famille Toyota, évidemment. C'est des énormes véhicules, extrêmement gourmands.
Ah, ils sont beaux, pardon.
Ils sont beaux, c'est magnifique. Puis, tu sais, les nouvelles déclinaisons là, sont vraiment super belles. Là. Puis, le TRD Pro, écoute, les véhicules TRD Pro, que ce soit le Toyota, le Tacoma, le Tundra, le Sequoia, les TRD Pro, là, t'amènes ça n'importe où, puis ça tient.
J'en ai vu un vert armé, il y a une couple d'années.
Hey, ça look, ça. Ah, moi aussi, je l'ai vu.
C'était beau.
Je l'ai vu un.
Ah, moi, ce que j'aimais, c'était plus les gris béton, là. Que j'aime
aussi
beaucoup.
Manhattan Grey.
Ouais. Ouais, wow. Exactement.
Jonathan, fait longtemps qu'il pose la question. On va la poser cette fois-ci. Marc, j'ai. Ben, d'abord, salut. J'ai un Ram 1500. Jamais mis une scène. J'approche du 200 000 kilos. Je veux changer, mais je sais pas quoi. Ram Durango CX-70 de Mazda. Je suis complètement perdu.
Mon Dieu, qu'on vient de passer dans trois catégories qui n'ont pas rapport.
Ouais, non, je sais. Mais il est perdu. Il dit.
Marc, du pack, des sushis et un steak.
Marc, s'il vous plaît, je suis au fond du puits. J'ai besoin d'une corde.
Mais regarde, il y a 200 000 km de fait avec son Ram puis il l'a aimé. Pourquoi ne pas rester là? On ramène le V8, on ramène le EMI. On a les mêmes caractéristiques qu'on a toujours eues. Allez-y. Le CX-70, moi, je l'aime beaucoup. Je l'ai conduit au cours des derniers jours. J'ai eu beaucoup de plaisir à le conduire, mais on est dans un tout autre monde. C'est presque luxueux. Le moteur est un peu grogneux, mais ça va bien. Quant au Durango, ben, c'est une vieille patente qui a 10 ans, qui n'a pas été rénovée depuis 10 ans. Allez, retourne donc.
Ouais, mais le Durango L4, là, ça, c'est un peu un range.
Ah oui.
C'est beau.
Et le 392, sauf que, tu sais...
Il y avait les couleurs aussi, là, un petit Durango fraise kiwi. Là.
Ouais,
non,
mais ça. C'est pas tout à fait la même chose. En fait,
c'est bon pour la santé, Adam.
D'après moi, ton gros Durango, il en prend pas mal des petits couleurs.
Salut Marc, j'ai un Tesla 3 2022 Long Drive. J'approche le 100 000 kilos et j'ai perdu 25% de l'autonomie de ma batterie. Il n'ouvrira pas cette porte-là. Oh oui, il va l'ouvrir. Est-ce que je devrais assumer de remplacer la batterie, Marc?
Non. Il n'y a même pas d'hésitation possible. C'est non. D'abord, ça coûte une fortune. Deuxièmement, vous risquez d'avoir le même problème. Moi, je vous dis non. Et puis, c'est vrai, là, c'est Tesla. Hein, c'est une compagnie avec laquelle j'ai pas beaucoup d'affinité, on va se le dire. Mais en même temps, je vous dirais la même chose pour n'importe quel véhicule électrique. Pour le moment, les coûts sont trop élevés. Il y a moyen de faire reconditionner des batteries. Il y a une entreprise à Québec, même, qui reconditionne des batteries pour un peu moins cher. Ouais, faudrait que je vous retrouve le nom, là. Ils reconditionnent.
Est-ce fiable?
C'est très fiable. Ça va très bien. C'est beaucoup moins dispendieux, mais c'est encore plusieurs milliers de dollars.
Ouais, c'est ça.
Voulez-vous garder votre voiture encore 5-6 ans? C'est votre choix.
C'est le body qui lâche un moment donné au Québec, là.
Ouais, puis surtout les Tesla, ils ont eu toutes sortes de problèmes de tous les genres. Surtout en 2022, là, c'était pas les meilleures années de la compagnie. Fait que moi, je vous dirais, écoutez, tournez-vous donc vers autre chose.
Question pour Marc, j'ai le goût de m'acheter un Ford Taurus un de ces jours, un rêve. Que penses-tu de ce véhicule? Y a-t-il des années à éviter? Quels sont les détails à regarder si je veux m'acheter un Ford Taurus?
C'est un Ford Taurus, c'est une voiture qui ne se fait plus là, depuis plusieurs années. C'est une auto qui était une grosse berline, un peu pataude, un peu bourrue. C'était correct, ça faisait la job. Si ça vous tente, si vous êtes capable de mettre la main sur les versions SHO, donc avec le moteur High Output qui est beaucoup plus puissant, c'est probablement la plus intéressante des versions. Mais c'est pas un problème. C'est pas une voiture à problème, c'est juste une auto qui a pas beaucoup de feeling, qui a pas beaucoup d'émotion.
Je sais pas si je sors des chemins de connaissance de Marc, mais j'aimerais savoir s'il peut me dire quelque chose concernant le petit VR Safari Kondo.
Ah, ben écoutez, Safari Kondo, c'est une compagnie...
C'est un classique, ça.
C'est un classique.
C'est une Econoline modifiée, là.
Oui. Puis c'est souvent basé, ça a été fait sur différentes formes. Maintenant, ils les font sur les bases de Mercedes.
Ce qu'avait Elvis Graton, mais plus professionnel.
Oui, exact. Écoutez, pour vous donner une idée, mon collègue Jacques Bienvenu se promène chaque année en Safari Kondo.
Oh, wow!
Et Jacques, avec toute sa vénérable comité.
Y a-tu modifié la transmission? Là?
Non, même pas. Fait que si...
Et Jacques de dire, c'est une belle marine.
C'est une belle marine, c'est une bien belle marine. Mais Jacques, qui en passant a été officiellement intronisé la semaine passée au stade de la renommée canadienne.
C'est un chef, là.
Je vous le dis.
Félicitations, Marc. Félicitations, Jacques. Mais je sais que c'est toi qui a été un...
Oui, non, c'est un collègue à moi, là, c'est
moi,
pas
je
grave.
Sais,
mais tout ça pour dire que Jacques est un gars connaisseur en safari condo et lui ne jure que par ça. Alors, je vous dirais, allez-y sans problème, sauf que le prix n'est pas nécessairement à la portée de toutes les bourses.
J'ai un Mercedes GLC 300, je vais le changer pour un Range Rover qui, selon moi, on va aller le show en look à l'international de l'auto. J'hésite entre le Evoque ou le Velar.
Écoutez, ce sont deux véhicules corrects avec lesquels vous risquez d'avoir pas mal plus de problèmes cependant que vous n'avez actuellement. Par contre, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le Evoque en termes de look. Je trouve qu'on a un style...
Il y a quelqu'un qui dit « Je n'ai pas à vendre, il est flambant neuf. »
Ben, c'est ça, c'est un peu ça. C'est pas... mettons que ce n'est pas des modèles de fiabilité. OK, on va juste dire ça comme ça.
Faut que tu aies plus top of the line dans le Range Rover.
Exactement. Moi, j'ai conduit récemment le Range Rover hybride branchable qui a été complètement redessiné, qui lui vraiment vaut la peine.
Beau, hein?
Mais les Velar puis les Evoque, c'est des modèles qui datent de quelques années, même si on a remodelé le Evoque il y a quelques années. Moi, j'hésiterais un peu.
OK. Hyundai Elantra hybride de 33 000 kilos, vous en pensez quoi?
Absolument. C'est un des véhicules qui a été le plus vendu dans sa catégorie. En version hybride, il est correct, il est fiable, il est solide. Il n'y a pas de problème majeur à surveiller sur le Hyundai Elantra.
OK. Toyota Corolla 2012, 60 000 kilos. Ça vaut combien, man? Allez sur... magasinez-le. Moi, c'est ça que je disais quand je vendais les assurances. Ça, va sur Internet, puis tape ton char, magasine-le, tu vas voir combien ça vaut.
C'est
ça,
mais c'est... Une Corolla 2012 avec 60 000 kilos.
Selon moi...
Ça n'a jamais livré de pizza.
Ça a appartenu à un curé. Là. tu peux dire que ça a appartenu à un curé.
Ça n'a jamais livré de pizza.
Non, jamais. Ça n'a jamais sorti l'hiver. Puis non, mais écoutez, j'avoue que je ne sais pas le prix. Je vais être honnête. Mm. Avec si peu de kilométrage, je ne me rappelle pas d'avoir vu ça pour une Toyota Corolla. Déjà que les Corollas valent cher. Même ces années-là.
Mm-hmm. Les odomètres, ça se recule pas à la marque, on tient le préciser.
Non, absolument pas. En tout cas, moi, je sais pas comment.
C'est sûr.
C'est sûr.
Moi non plus.
Il t'en reste un dernier, mon cher Dan?
Ben oui. Bonjour, tout? Marc. Que pensez-vous du Mitsubishi Outlander PHEV 2026?
Écoutez, je vais être obligé de retenir mon jugement parce qu'au moment où on se parle, mon fils est en train de l'essayer à Vancouver. Il est là-bas actuellement, puis c'est le lancement. Donc, j'ai pas eu l'occasion, moi, de le conduire encore. On fait le lancement canadien en ce moment. Donc, si vous permettez, je vais être obligé de retenir mon jugement et je vais en profiter pour me plugger. Écoutez le podcast Gotchard la semaine prochaine. Vous aurez l'essai de William sur ce nouveau véhicule-là avec tous les changements. Donc, je suis obligé de réserver mon jugement pour l'instant.
Voilà.
C'est tout?
C'est tout.
Hey Marc, on peut t'écouter à quelle place?
Ben écoutez,
les plateformes de Marc.
Justement, le podcast Gotchard que vous retrouvez sur toutes les plateformes de balado-diffusion, le Spotify et autrement. Bien sûr, la page Facebook Gotchard Podcast. Si vous avez des questions, je vous invite bien sûr à regarder Virage aussi, là, soit sur la chaîne YouTube ou soit sur les ondes de Télémag. Et pour ceux qui sont à Québec, ben cet après-midi, je vais aller faire un tour au salon à l'International de l'Auto de Québec. Excusez, j'ai failli dire le salon de l'auto. À l'International de l'Auto de Québec où je serai là pour rencontrer les gens, répondre aux questions. Donc, si vous êtes là, ben venez me saluer, ça me fera
plaisir. Tu vas être dans quel coin, dans quel côté de quel constructeur?
Je vais me promener, je vais aller entre autres du côté du kiosque Radio X, là, je vais être dans ce coin-là.
Ah, c'est bon!
On est dans le lien entre les deux pavillons, on est facile à trouver, c'est impossible de passer à côté.
Ben oui, d'ailleurs, vous êtes juste au côté de notre grosse photo virage
tu vois,
sur le mur en grand format.
Oh, oui. Signes-tu des autographes?
On est à côté de la boutique Souvenir Gilles Villeneuve.
Tu ris, ben c'est exactement ça, moi on est juste là. Mais tu ris, Dominique, hein, mais l'année passée, quand j'étais au salon, il y a quelqu'un qui venait me demander un autographe. Alors moi, je suis un peu étonné. Hein? Ce n'est pas le genre d'affaire que je fais souvent. Et il m'a dit, je vous ai reconnu par la voix, vous écoutez, vous faites Radio X.
Hey, c'est sûr.
Et l'autre, je tiens à vous le souligner parce que j'étais un peu flabbergasté. Lundi, cette semaine, c'était la journée de presse. Et je suis en train de m'enregistrer. Il y a un homme derrière moi qui dit, hey, ça, c'est le journaliste automobile le plus sous-estimé. Lui et son fils sont incroyables. Je me suis retourné et c'était Stéphane Lachance que je connais ni d'un.
Oh, Steph! Ben oui.
J'avais aucune idée c'est qui, parce que moi, je suis pas de Québec. Il s'est présenté. Alors, ben écoutez, M. Lachance, heureux de savoir que vous êtes un abonné à notre podcast.
Très bon. Salut, Marc. Merci encore.
Bye, bonne semaine.
Ciao.